Si le ménage de David eut une somme suffisante pour passer l'hiver, il se trouva sous la surveillance de Cérizet et, sans le savoir, dans la dépendance du grand Cointet. « Ils sont à nous, » dit en sortant le directeur de la papeterie à son frère l'imprimeur. « Ces pauvres gens vont s'habituer à recevoir le loyer de leur imprimerie. Ils compteront là-dessus et ils s'endetteront. Dans 6 mois, nous ne renouvellerons pas le bail et nous verrons alors ce que cet homme de génie aura dans son sac. » car nous lui proposerons de le tirer de peine en nous associant pour exploiter sa découverte. Si quelques rusés commerçants avaient pu voir le grand Cointet prononçant ces mots, en nous associant, il aurait compris que le danger du mariage est encore moins grand à la mairie qu'au tribunal de commerce. N'était-ce pas trop déjà que ces féroces chasseurs fussent sur les traces de leur gibier? David et sa femme, aidés par Kolb et par Marion, étaient-ils en état de résister aux ruses d'un Boniface Cointet? Quand l'époque des couches de Madame Séchard arriva, le billet de 500 francs envoyé par Lucien, joint au second paiement de Cérizet, permit de suffire à toutes les dépenses. Ève, sa mère et David, qui se croyaient oubliés par Lucien, éprouvèrent alors une joie égale à celle que leur donnaient les premiers succès du poète, dont les débuts dans le journalisme firent encore plus de tapage à Angoulême qu'à Paris. Endormi dans une sécurité trompeuse, David chancela sur ses jambes en recevant de son beau-frère ce mot cruel. « Mon cher David, j'ai négocié chez Métivier 3 billets signés de toi, faits à mon ordre, à 1, 2 et 3 mois d'échéance. Entre cette négociation et mon suicide, j'ai choisi cette horrible ressource qui, sans doute, te gênera beaucoup. Je t'expliquerai dans quelle nécessité je me trouve, et je tâcherai d'ailleurs de t'envoyer les fonds à l'échéance. Brûle ma lettre, ne dis rien ni à ma sœur ni à ma mère, car je l'avoue, avoir compté sur ton héroïsme bien connu de ton frère au désespoir, Lucien de Rubempré. Ton pauvre frère, dit David à sa femme qui relevait alors de couche, est dans d'affreux embarras. Je lui ai envoyé 3 billets de 1 000 francs à 1, 2 et 3 mois. Prends-en note. Puis il s'en alla dans les champs afin d'éviter les explications que sa femme allait lui demander. Mais en commentant avec sa mère cette phrase pleine de malheur, Ève, déjà très inquiète du silence gardé par son frère depuis 6 mois, eut de si mauvais pressentiments que, pour les dissiper, elle se résolut à faire une de ces démarches conseillées par le désespoir. Monsieur de Rassignac, fils, était venu passer quelques jours dans sa famille. Et il avait parlé de Lucien en assez mauvais termes pour que ses nouvelles de Paris, commentées par toutes les bouches qui les avaient colportées, fussent arrivées jusqu'à la sœur et à la mère du journaliste. Ève alla chez Madame de Rassignac, y sollicita la faveur d'une entrevue avec le fils à qui elle fit part de toutes ses craintes, en lui demandant la vérité sur la situation de Lucien à Paris. En un moment, Ève apprit la liaison de son frère avec Coralie, son duel avec Michel Chrétien, causé par sa trahison envers la thèse, enfin, toutes les circonstances de la vie de Lucien, envenimées par un dandy spirituel, qui sut donner à sa haine et à son envie les livrets de la pitié, la forme amicale du patriotisme alarmé sur l'avenir d'un grand homme, et les couleurs d'une admiration sincère pour le talent d'un enfant d'Angoulême, si cruellement compromis. Il parla des fautes que Lucien avait commises et qui venaient de lui coûter la protection des plus hauts personnages, de faire déchirer une ordonnance qui lui conférait les armes et le nom de Rubempré. « Madame, si votre frère eût été bien conseillé, il serait aujourd'hui dans la voie des honneurs et le mari de Madame de Bargeton. Mais que voulez-vous? Il l'a quittée, insultée. Elle est, à son grand regret, devenue Madame la Comtesse Sixte du Châtelet, car elle aimait Lucien. « Est-il possible ?» s'écria Madame Séchard. « Votre frère est un aiglon que les premiers rayons du luxe et de la gloire ont aveuglé. Quand un aigle tombe, qui peut savoir au fond de quel précipice il s'arrêtera? La chute d'un grand homme est toujours en raison de la hauteur à laquelle il est parvenu. » Ève revint épouvantée, avec cette dernière phrase qui lui traversa le cœur comme une flèche. Blessée dans les endroits les plus sensibles de son âme, elle garda chez elle le plus profond silence. Mais plus d'une larme roula sur les joues et sur le front de l'enfant qu'elle nourrissait. Il est si difficile de renoncer aux illusions que l'esprit de famille autorise et qui naissent avec la vie, qu'Ève se défia d'Eugène de Rassignac. Elle voulut entendre la voix d'un véritable ami. Elle écrivit donc une lettre touchante à l'Arthez, dont l'adresse lui avait été donnée par Lucien au temps où Lucien était enthousiaste du Cénacle, et voici la réponse qu'elle reçut. « Madame, vous me demandez la vérité sur la vie que mène à Paris monsieur votre frère. Vous voulez être éclairée sur son avenir. » Et pour m'engager à vous répondre franchement, vous me répétez ce que vous en a dit monsieur de Rassignac en me demandant si de tels faits sont vrais. En ce qui me concerne, madame, il faut rectifier à l'avantage de Lucien les confidences de monsieur de Rassignac. Votre frère a éprouvé des remords. Il est venu me montrer la critique de mon livre en me disant qu'il ne pouvait se résoudre à la publier, malgré le danger que sa désobéissance aux ordres de son parti faisait courir à une personne bien chère. Hélas, madame, la tâche d'un écrivain est de concevoir les passions, puisqu'il met sa gloire à les exprimer. J'ai donc compris qu'entre une maîtresse et un ami, l'ami devait être sacrifié. J'ai facilité son crime à votre frère. J'ai corrigé moi-même cet article libellicide et l'ai complètement approuvé. Vous me demandez si Lucien a conservé mon estime et mon amitié? Ici, la réponse est difficile à faire. Votre frère est dans une voie où il se perdra. En ce moment, je le plains encore. Bientôt, je l'aurai volontairement oublié, non pas tant à cause de ce qu'il a déjà fait que de ce qu'il doit faire. Votre Lucien est un homme de poésie et non un poète. Il rêve et ne pense pas. Il s'agite et ne crée pas. Enfin, c'est, permettez-moi de le dire, une femmelette qui aime apparaître, le vice principal du français. Ainsi, Lucien sacrifiera toujours le meilleur de ses amis au plaisir de montrer son esprit. Il signerait volontiers demain un pacte avec le démon si ce pacte lui donnait pour quelques années une vie brillante et luxueuse. N'a-t-il pas déjà fait pire en troquant son avenir contre les passagères délices de sa vie publique avec une actrice? En ce moment, la jeunesse, la beauté, le dévouement de cette femme, car il en est adoré, lui cache les dangers d'une situation que ni la gloire, ni le succès, ni la fortune ne font accepter par le monde. Eh bien, à chaque nouvelle séduction, votre frère ne verra, comme aujourd'hui, que les plaisirs du moment. Rassurez-vous, Lucien n'ira jamais jusqu'au crime, il n'en aurait pas la force. Mais il acceptera un crime tout fait. Il en partagerait les profits, sans en avoir partagé les dangers. Ce qui semble horrible à tout le monde, même aux scélérats. Il se méprisera lui-même, il se repentira. Mais la nécessité revenant, il recommencerait car la volonté lui manque. Il est sans force contre les amorces de la volupté, contre la satisfaction de ses moindres ambitions. Paresseux comme tous les hommes à poésie, il se croit habile en escamotant les difficultés au lieu de les vaincre. Il aura du courage à telle heure, mais à telle autre il sera lâche. Et il ne faut pas plus lui savoir gré de son courage que lui reprocher sa lâcheté. Lucien est une harpe, dont les cordes se tendent ou s'amollissent au gré des variations de l'atmosphère. Il pourra faire un beau livre dans une phase de colère ou de bonheur, et ne pas être sensible au succès après l'avoir cependant désiré. Dès les premiers jours de son arrivée à Paris, il est tombé dans la dépendance d'un jeune homme sans moralité, mais dont l'adresse et l'expérience au milieu des difficultés de la vie littéraire l'ont ébloui. Ce prestidigitateur a complètement séduit Lucien. Il l'a entraîné dans une existence sans dignité sur laquelle, malheureusement pour lui, l'amour a jeté ses prestiges. Trop facilement accordé, l'admiration est un signe de faiblesse. On ne doit pas payer en même monnaie un danseur de cordes et un poète. Nous avons été tous blessés, de la préférence accordée à l'intrigue et à la friponnerie littéraire, sur le courage et sur l'honneur de ceux qui conseillaient à Lucien d'accepter le combat, au lieu de dérober le succès, de se jeter dans l'arène au lieu de se faire à des trompettes de l'orchestre. La société, madame, est par une bizarrerie singulière, pleine d'indulgence pour les jeunes gens de cette nature. Elle les aime, elle se laisse prendre au beau semblant de leurs dons extérieurs. D'eux, elle n'exige rien. Elle excuse toutes leurs fautes. Elle leur accorde les bénéfices des natures complètes en ne voulant voir que leurs avantages. Elle en fait enfin ses enfants gâtés. Au contraire, elle est d'une sévérité sans bornes pour les natures fortes et complètes. Dans cette conduite, la société, si violemment injuste en apparence, est peut-être sublime. Elle s'amuse des bouffons sans leur demander autre chose que du plaisir et les oublie promptement. Tandis que, pour plier le genou devant la grandeur, elle lui demande toutes ses divines magnificences. À chaque chose sa loi. L'éternel diamant doit être sans tache. La création momentanée de la mode a le droit d'être légère, bizarre et sans consistance. Aussi, malgré ses erreurs, peut-être Lucien réussira-t-il à merveille. Il lui suffira de profiter de quelques vannes heureuses ou de se trouver en bonne compagnie. Mais s'il rencontre un mauvais ange, il ira jusqu'au fond de l'enfer. C'est un brillant assemblage de belles qualités brodées sur un fond trop léger. L'âge emporte les fleurs, il ne reste un jour que le tissu. Et s'il est mauvais, on y voit un haillon. Tant que Lucien sera jeune, il plaira. Mais à 30 ans, dans quelle position sera-t-il? Telle est la question que doivent se faire ceux qu'il aime sincèrement. Si j'eusse été seule à penser ainsi de Lucien, peut-être aurais-je évité de vous donner tant de chagrin par ma sincérité. Mais outre qu'éluder par des banalités des questions posées par votre sollicitude me semblait indigne de vous dont la lettre est un cri d'angoisse et de moi dont vous faites trop d'estime, ceux de mes amis qui ont connu Lucien sont unanimes en ce jugement. J'ai donc vu l'accomplissement d'un devoir dans la manifestation de la vérité, quelque terrible qu'elle soit. On peut tout attendre de Lucien, en bien comme en mal. Telle est notre pensée, en un seul mot, où se résume cette lettre. Si les hasards de sa vie, maintenant bien misérable, bien chanceuse, ramenaient ce poète vers vous, usez de toute votre influence pour le garder au sein de la famille. Car, jusqu'à ce que son caractère ait pris de la fermeté, Paris sera toujours dangereux pour lui. Il vous appelait, vous et votre mari, ses anges gardiens, et il vous a sans doute oublié. Mais il se souviendra de vous au moment où, battu par la tempête, il n'aura plus que sa famille pour asile. Gardez-lui donc votre cœur, madame. Il en aura besoin. Agréez, madame, les sincères hommages d'un homme à qui vos précieuses qualités sont connues et qui respecte trop vos maternelles inquiétudes pour ne pas vous offrir ici ses obéissances en se disant « Votre dévoué serviteur, d'Arthez. »